Et dire, ben, hein, alors faites un cours normal, puis je ferai tomber le second cours. Frappe, il y a une espèce de baisse terrible. Il y a un appel. Très grand, très très grand, il y a un appel. Alors évidemment, ce sont des situations qui sont très très difficiles parce que pendant les deux, il y a eu des tas de choses, des tas de bêtises. Et ce brave garçon, c'est sûr que. Il n'avait qu'un seul désir, c'est que qu'il puisse se marier à l'église. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Est-ce qu'en allant voir l'évêque, il ne pourrait pas arranger ça? Ils ne savent pas très bien ce que c'est. Est-ce qu'il ne pourrait pas arranger ça en allant voir l'évêque? Il pourrait toujours aller le voir, je lui dis. Puis on verra après. Bon, alors. La bonne volonté n'applique-t-elle pas automatiquement la grâce chrétienne? Je dirais, la bonne volonté est l'effet de la grâce chrétienne. N'est-ce pas alors, dans ce sens, que l'on peut dire que tout acte humain bon est implicitement chrétien? Il est bon parce qu'il est chrétien. Renversez la chose, vous voyez, et voyez à travers l'effet la cause. C'est comme quand Saint Jean dit. Tout amour vient de Dieu. Tout amour bon, droit, vrai, vient de Dieu. Autrement, c'est plus un amour. Mais dès qu'il y a quelque chose de pécamineux, c'est-à-dire dès que la passion l'emporte sur l'amour véritable, dès qu'il y a accaparement, alors ça vient pas de Dieu. Ça vient du pauvre pécheur. Comment peut-on maintenir à la fois la bonne volonté liée à la grâce et l'existence d'un amour bon, purement humain? C'est justement qu'il n'est pas purement humain. C'est beaucoup plus de dire, vous voyez, comment peut-on maintenir à la fois la bonne volonté liée à la grâce, la bonne volonté liée à la grâce provient de la grâce, l'existence d'un amour bon, purement humain, ordinairement, s'il est bon, il est humain et il est déjà divin. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, qu'au fond, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dit dans l'Évangile. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui prouve que si un amour bon, humain, véritablement, mais il est déjà appelé par le Christ. Alors, il n'est pas explicitement. Ça n'enlève absolument rien à la grande distinction de saint Thomas. Et ça, il faut le maintenir. Il faut maintenir un amour de structure humaine et un amour de structure divine. Parce qu'autrement, alors, vous voyez, c'est là la très grosse difficulté. C'est que ce que je viens de dire, alors, donc vous ne distinguez plus l'amour humain, l'amour divin. Ben oui, je le distingue. Mais de facto, c'est l'ordre existentiel et la différence entre l'analyse. Et il faut le maintenir, je n'ai pas le droit de ne pas le maintenir, parce que dès que je maintiens, vous voyez, l'amour divin a des exigences que l'amour humain n'a pas. Alors, je peux avoir un amour humain vrai chez quelqu'un qui n'est pas chrétien, du moins qu'il l'est très peu. Il est chrétien, mais il ne pratique pas. Si vous prenez le bon chrétien de base d'aujourd'hui, hein. Le bon chrétien de base d'aujourd'hui, il a fait sa première communion, sa confirmation, pas plus. Il s'est marié à l'église, oui. On l'a rattrapé au moment du mariage, n'est-ce pas? Et bon, et puis après, pas très bien. On fera baptiser les enfants, c'est bien évident. Bon, alors à ce moment-là, on essaiera de redonner un tout petit coup de fouet pour le remettre dans le. Oui, on voit bien, c'est le bon peuple de Dieu. Toutes les brebis boitent un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. On voit très bien. C'est très rare que vous trouviez une brebis en pleine santé, merveilleuse. Elle est bonne pour le couvent, celle-là. C'est très très rare, c'est très vrai, surtout aujourd'hui, que voulez-vous. Alors, vous voyez bien que sans un amour, sans un acte de foi explicite dans le Christ, on peut dire que cette bonne volonté, elle est chrétienne. Que cet amour humain bon, il est chrétien. Moi, je suis persuadé que quand des êtres qui ne pratiquent pas beaucoup, mais qui vraiment se rencontrent et s'aiment, la naissance d'un véritable amour, mais je suis persuadé qu'il y a la grâce de Dieu là. C'est impossible autrement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a la grâce de Dieu qui est présente. Mais, comprenons bien, le devoir de quelqu'un qui les rencontre à ce moment-là, un apôtre, c'est d'essayer d'expliciter le mystère du Christ à travers cet amour. Tout amour nous conduit vers Dieu et vers le Christ. Tout amour authentique nous conduit vers Dieu et vers le Christ. Et donc, il s'agit d'expliciter pour faire comprendre que, mais oui, que le Christ est là et qu'il se manifeste de cette manière-là et que Dieu amour est là, présent. Et c'est à ce moment-là qu'on explicite. Alors, si en face de cette exigence nouvelle de l'amour chrétien, on dit « Ah non, moi je reste uniquement ma bonne volonté, pas chrétienne. » Alors, à ce moment-là, voyez, on refuse quelque chose. Et cet amour n'est plus bon. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'on a refusé. C'est pour ça que c'est très délicat. C'est toujours très difficile. Il ne faut pas aller trop vite. On assène des vérités à des gens qui ne sont peut-être pas encore capables de les porter. Ils risquent de refuser. Et s'ils refusent, il y a un refus. Et donc, il n'y a plus l'élan premier. Oui. Bon, alors, farouchement opposé à Dieu. Oui, au niveau idéologique. Ordinairement, les idéologues sont farouchement opposés à l'idée de Dieu, l'idée qu'ils se sont fait de Dieu, l'idée qu'ils se sont fait à partir des curés. Là, ils voient rouge. Vous voyez ? Alors, ils sont fait une idée de Dieu qui n'est pas du tout Dieu. Alors, ils sont opposés à une idée de Dieu. Bon. Très souvent, mais non, s'il y a un véritable amour, tout dépendra de cette qualité de l'amour. Et cet amour sera peut-être le moyen par lequel Dieu reprendra tout. Oui, c'est ce qu'on trouve actuellement, paraît-il. Moscou, en Russie, on retrouve ça, on retrouve constamment des choses qui sont très étonnantes et on dit mais il y a un amour divin là, il y a quelque chose de profondément humain qui mène à Dieu. Mais ce qui n'empêche absolument pas de reconnaître qu'il y a la nature et la grâce, c'est deux choses différentes et il faut le reconnaître tout le temps. Mais il faut en même temps ne pas appliquer, c'est souvent ce qu'il faut faire, ne pas appliquer une conclusion de théologie scientifique à la réalité. Une conclusion de théologie scientifique n'est pas pratique. Vous savez, cette phrase que le père Garrigou dit, que je n'aime pas du tout, bien que ce soit celle du père Garrigou, le père Garrigou dit « Appliquons les conclusions théologiques à la réalité ». On ne peut pas appliquer une conclusion théologique à la réalité, parce qu'une conclusion théologique d'une théologie scientifique est abstraite. C'est la foi qui est concrète. C'est la parole de Dieu qui est concrète, mais ce n'est pas la conclusion théologique. Alors vous allez me dire, la conclusion théologique ne sert à rien. Mais oui, elle sert à quelque chose. Elle nous aide à d'abord mettre notre intelligence au service de la foi, et nous aide à mieux comprendre. Mais quand il s'agit du point de vue pratique, on revient toujours, au-delà de la conclusion scientifique, on revient à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est immédiatement praticable. C'est ça le propre de la théologie mystique. C'est par la parole de Dieu que je reviens à un jugement pratique. Le jugement pratique ne peut pas se faire à partir d'une conclusion de théologie scientifique. Même si cette théologie scientifique est celle de saint Thomas. La conclusion scientifique n'est pas praticable, vous voyez bien. Elle n'est pas de l'ordre pratique, c'est une conclusion scientifique. Et c'est vrai pour tout ça. Mais c'est comme le jeune médecin qui est très féru de toutes ses conclusions, puis qui les applique. Mais non, on doit toujours reprendre à partir de la réalité, et redécouvrir à partir de la réalité si on peut saisir certains aspects. De sorte que, vous voyez, reconnaître que quelqu'un qui... où il y a l'éclosion d'un véritable amour humain. Je peux être sûr que s'il y a vraiment l'éclosion d'un véritable amour humain, il y a la grâce de Dieu. Je ne dis pas la grâce sanctifiante, hein. Ça c'est autre chose, mais un auxilium, la grâce d'un secours, qui est comme une préparation vers quelque chose. Ce n'est pas la grâce sanctifiante qui sanctifie l'âme, non, c'est un appel. Et c'est le secours de Dieu, c'est le secours de la grâce. Bon. Ceci, je crois que nous devons le dire, c'est dans la lumière même de l'évangile, de l'épître de Saint Jean. Tout amour vient de Dieu, tout amour authentique. Il y a la marque de Dieu, c'est impossible autrement. Et il vient du Christ. Ceci n'empêche absolument pas que je fasse la distinction entre l'homme naturel et le surnaturel. À tel point que, justement, celui qui est conduit par cet amour, à un moment donné, il sera obligé d'opter. Il ne pourra pas dire, moi, je m'enferme dans un amour humain. Et je ne veux que l'amour humain, en excluant tout le reste. Oui. C'est là, je crois, la très grosse différence. Et vis-à-vis de quelqu'un qui adhère à une idéologie marxiste, et qui cependant commence à aimer vraiment. Cet amour peut être très bien la grâce de Dieu. C'est arrivé très souvent. C'est à partir d'un amour qui naît, l'éclosion d'un amour, que la grâce est donnée. Et ça fera qu'à ce moment-là, il sera obligé, et la Providence fera bien qu'il rencontre tel ou tel prêtre, ou tel ami, croyant, qui l'éclairera et qui l'aidera. Il sera obligé, à un moment donné, d'opter et de comprendre s'il ne doit pas aller plus loin. C'est comme une prévenance de Dieu, c'est comme un appel de Dieu, c'est comme si Dieu venait vers lui en disant « voilà ». Et Dieu vient sous la lumière de l'amour, et non pas sous la lumière du devoir, mais sous la lumière de l'amour. C'est comme ça que Dieu parle la plupart du temps. C'est le langage de Dieu, ça. Mais à un moment donné, il y aura l'option à faire. Et on sera en face d'un athée de cette sorte, on devra lui faire comprendre que le Dieu qu'il rejette, c'est pas du tout le vrai Dieu. C'est une caricature. On devra essayer de faire que de plus en plus, il puisse, voyez, faire sortir tout son venin pour découvrir le vrai Dieu. Bon, nous allons continuer. Où est-ce que nous en étions? À l'éthique. Le droit naturel. Et ça, le droit naturel. Et après, nous reviendrons à la liberté, à la sainte liberté. Alors, je vous disais que le droit naturel, je crois, ne peut se fonder pleinement que dans un jugement de sagesse. Je crois que c'est très difficile, dans une perspective éthique humaine, de parler d'un droit naturel, au sens fort. Hein. Parce que le droit naturel, c'est quoi? C'est de découvrir dans la nature une intention finalisée qu'on puisse proclamer, qu'on puisse énoncer. Il est bien évident que la nature créée par Dieu est finalisée. Et cela, on peut le découvrir dans un regard purement philosophique. Mais découvrir que la nature est finalisée et proclamer le droit naturel, c'est pas la même chose. C'est là un peu le hiatus qu'il faut essayer de saisir. Il existe une philosophie de la nature. Et cette philosophie de la nature, elle existe avant le regard, avant le jugement de sagesse. Elle ne dépend pas du jugement de sagesse. Et je découvre qu'il y a une nature humaine, parce que c'est ça qui m'intéresse. Il y a une nature humaine. Et la nature humaine, on la découvre avant tout dans le phénomène de la procréation. C'est toujours, ce que dit Aristote, c'est toujours à partir de la procréation, de la génération qu'on découvre la nature. C'est normal, parce qu'on découvre la nature dans son aspect génétique et sa perfection. Donc on la saisit à la racine, et dans sa perfection. Donc, on a une connaissance de la nature. Il y a une connaissance de la nature, nature forte, nature-matière, je peux arriver toujours à distinguer ça. Donc je peux distinguer l'âme et le corps. Je ne dis pas l'âme immortelle, ça mettra un peu plus longtemps. Arrivant dans l'âme immortelle, je découvre une âme et un corps. Autre chose est de parler de cette distinction de l'âme et du corps, de la forme et de la matière, en découvrant que, par le point de vue de la forme et par le point de vue de l'âme, il y a un ordre vers une fin. Donc, toute nature est finalisée. Et une finalité qui est difficile à préciser. Très difficile. Vous voyez, Aristote précise cette finalité en voyant que il y a une constante. La plupart du temps, ça ne s'oriente de cette manière-là. Donc, c'est une finalité qui demeure dans l'immanence de la nature. Quelle est la finalité propre du tyran ? Cette finalité qui est à l'intérieur même de la nature du vivant. Donc, c'est une finalité immanente à l'espèce. Je demeure dans l'espèce. Elle dépasse l'individu, elle transcende l'individu et elle touche l'espèce. Pour le vivant, c'est assez clair. Pour la nature humaine, je verrai évidemment qu'il y a quelque chose de plus puisque je peux découvrir l'amitié. En découvrant l'amitié, je découvre une fin qui n'est plus une fin immanente de l'espèce, qui est une fin personnelle. Il y a quelque chose de nouveau pour la nature humaine. Quelle différence y a-t-il entre découvrir cette finalité personnelle et parler de loi naturelle ? La loi naturelle, c'est quoi ? C'est découvrir que dans cette nature, il y a quelque chose d'universel. Qui dit loi, dit nécessairement cause exemplaire. Et dit quelque chose d'universel. On proclame que toute nature humaine, par exemple, je ne sais pas, est le point de vue du bien et du mal. Que toute nature humaine est capable de discerner le point de vue du bien et le point de vue du mal. Et que ce discernement, il est donné pour chacun. Or, on s'aperçoit que dans certaines conditions, l'homme a beaucoup de peine quelquefois à discerner exactement ce qui est bon et mal. Et ce qu'on parlait l'autre jour, par exemple, de la monogamie. C'est vrai que ça peut être quelquefois très difficile à découvrir. Est-ce que le fait du mariage uniquement avec l'époux et l'épouse, sans que le mari puisse avoir son harem, est-ce que c'est de droit naturel ou pas de droit naturel ? C'est pas toujours commode à préciser, puisqu'on peut voir qu'il y a dans certaines coutumes des choses qui sont admises par tout le monde et qui paraissent quasi naturelles. Quasi naturelles. Il y a un ordre naturel d'amitié. L'amitié implique un, implique multiple. Dans l'ordre de finalité, on voit très bien que ce n'est pas exclusif du tout. L'amitié n'est pas exclusive de l'unité. Dans la loi naturelle, il y a une espèce de projection vers quelque chose qui est universel. Donc qui est beaucoup plus net. Je dirais, au niveau de la finalité, ça se découvre progressivement. Elle ne se donne pas d'avance. Une finalité n'est pas dictée d'avance. Elle se découvre progressivement. Progressivement, je découvre qu'il faut m'orienter de cette manière-là. Et je suis fidèle à cette finalité. C'est de l'intérieur. Tandis que quand on dit « tu dois faire cela », l'impératif catégorique, il s'appuie sur une loi. Et ça devient très, très différent. Ça vient de l'extérieur. La loi a toujours quelque chose d'extérieur, cause exemplaire, quelque chose d'extérieur par rapport à l'individu. Et elle proclame le lien constant de la nature vers telle fin et un discernement entre le bien et le mal. Je crois que c'est propre de toute loi naturelle, c'est proclamer ça. C'est proclamer que la loi est que la nature humaine est ordonnée vers ce bien et ordonnée vers tel ou tel moyen en vue d'acquérir ce bien. Alors, il me semble que la projection de ces déterminations, un ordre vers une fin, ça implique des déterminations ordonnées vers une fin. Ces déterminations sont partielles, mais sont ordonnées vers la fin, qui est quelque chose de beaucoup plus absolu. Cet ordre qui existe entre les deux, il se découvre progressivement. Normalement, dans notre vie humaine, arrivé à un certain âge, 45 ans, on voit beaucoup plus nettement ce qui est le bien et le mal que quand on a 20 ans. Il suffit quelquefois d'une poussée volcanique de printemps pour qu'à ce moment-là, l'orientation profonde du bien et du mal, ça se voit plus beaucoup. On voit plus cet ordre immanent. Tandis que là, il est proclamé d'extérieur. Et il est proclamé d'extérieur comme quelque chose de net, de déterminé. Parce qu'il y a des dispositions vis-à-vis de ces déterminations. Et ces dispositions ne sont pas d'une netteté absolue. Donc, autre chose est de dire que la nature humaine est ordonnée vers une fin, autre chose est de proclamer une loi naturelle. Et je crois que c'est très important de distinguer les deux. Or, il me semble que la proclamation de la loi naturelle implique un regard de sagesse, donc un jugement de sagesse. Pourquoi ? Parce que cette loi naturelle se fonde sur l'intention profonde de cette nature vers une fin. Ce n'est plus l'individu, c'est quelque chose d'universel, c'est la nature ordonnée vers la fin. Il y a une intention profonde, et cette intention est le reflet de la sagesse de Dieu. Toute loi naturelle proclame qu'il y a dans cette nature un reflet de la sagesse divine. Il y a quelque chose qui est ordonné par la sagesse divine. Alors, ce jugement de sagesse, je veux dire, la sagesse de Dieu va se réaliser à travers cette loi naturelle que je vais proclamer. Et je proclame cette loi naturelle parce que cette nature provient de la sagesse de Dieu. Elle a été créée avec sagesse. Et donc elle implique à ce moment-là une loi naturelle. Je crois que la loi naturelle s'appuie toujours sur la sagesse de Dieu. Ça me semble extrêmement difficile de proclamer une loi naturelle en dehors du regard de la sagesse de Dieu. Tandis que je peux dire, au point de vue philosophique, avant d'arriver dans un regard de sagesse, il existe une finalité. Et c'est la finalité qui me conduit à cette loi naturelle. Mais expliciter au-delà de cet ordre d'immanence une loi naturelle, ça ne peut se faire que dans un regard de sagesse.
La découverte d'une seule nécessité au niveau de la nature, mais anonyme, ne suffit pas.
Je crois que c'est l'attente.
C'est le moment qui a un point de vue personnel, d'une intelligence.
Oui, d'une intelligence. Je saisis mon bien. J'ai saisi ma finalité. Et je dirais que j'ai saisi cette finalité grâce à telle ou telle circonstance qui m'a permis ça. J'ai rencontré telle personne, j'ai rencontré ce sage qui m'a éclairé dans ma vie, qui m'a montré ça. Si je ne l'avais pas rencontré, est-ce que j'aurais découvert ça ? Pas sûr. Oui. Donc ça reste très, très lié à toute une série de circonstances particulières dans lesquelles on sait qu'on a été éclairé. On est entré dans la communauté Saint-Jean et c'est pour ça qu'on comprend ce qu'on sait de la finalité. On serait entré autre part. Et c'est vrai, c'est constamment des choses comme ça. Vous pouvez prendre d'autres exemples. Vous pouvez dire, si j'aurais pu redécouvrir. C'est vrai. Que de fait, dans notre vie personnelle, on reconnaît constamment que telle ou telle orientation est produite telle ou telle rencontre. Et grâce à cette rencontre, on a pu s'orienter comme ça. Tandis qu'autrement, ce serait sûrement pas possible. Donc, ça reste des liens personnels. Oui. Ces liens personnels, on reconnaît pour soi que ça touche quelque chose de très profond dans notre nature humaine. Et que c'est bien cela. Mais puis-je l'universaliser ? savez, je peux universaliser très vite le spéculatif. Et le pratique, donc la finalité, saisir l'ordre de nature et finalité. Attention, l'éthique ne se fonde pas sur la loi naturelle. Et je crois qu'il y a pétition de principe quand on fonde l'éthique sur la loi naturelle.
Ce qui se fait très facilement, c'est des quantités de gens, de bonnes traditions, des gens de droite,
ont toujours envie de fonder l'éthique sur la loi naturelle. Mais oui, il y a une loi naturelle, donc l'éthique, elle existe. Mais la loi naturelle, elle est tombée du ciel.
Elle est donnée à Abraham. Du moins, elle est donnée à Moïse. Elle est donnée à Moïse.
Bon, c'est très vrai qu'elle pouvait être très proche de toute loi naturelle parallèle. C'est très vrai, ça ne me gêne pas du tout, parce que les traditions religieuses sont avant les traditions morales éthiques. Et c'est les traditions religieuses qui sont les plus anciennes. Et ça donnerait un critère extrêmement intéressant pour vous montrer que la loi naturelle comme telle présuppose toujours une attitude religieuse. C'est ça que je veux dire quand je dis jugement de sagesse.
Il me semble, et là je crois qu'il faut être très attentif là-dessus,
parce que je ne vois pas comment, philosophiquement, historiquement, je vous ai dit, c'est les stoïciens qui sont les premiers à parler de la loi naturelle, ce sont les stoïciens. Bon, les stoïciens, c'est une attitude religieuse, ça c'est sûr.
C'est dans une attitude religieuse qu'ils affirment ça. Et je crois que si on repense le problème indépendamment du point de vue historique, on peut dire que, l'épanouissement, si vous voulez, de ce point de vue humain, on peut dire que la loi naturelle présuppose une relation avec la sagesse. Il est inscrit en moi, au plus intime de moi, il est inscrit une intention qui me conduit vers le bien, qui me conduit vers ma fin, et qui me permet de la découvrir. Je porte en moi, d'une façon immanente, ce que la loi naturelle me dit. La loi naturelle est explicite, mais je le porte en moi.
Oui, sûrement que c'est la question de la cinquième voie de Saint Thomas. Vous voyez, Saint Thomas ne dit pas loi naturelle. Il dit un appétit naturel.
Et toute la morale repose sur l'appétit naturel. Et la morale ne repose pas sur la loi naturelle. Il s'agit de distinguer bien ce que c'est que la différence entre l'appétit naturel et la loi naturelle.
Et ne confondons pas les deux. Parce que ce serait confondre l'exigence de la causalité exemplaire et la causalité finale. La causalité exemplaire présuppose la causalité finale.
Pour expliciter certaines choses que la causalité finale porte toujours d'une façon confuse, quelquefois très très forte au point de vue personnel, ça c'est sûr, mais c'est pas universel, c'est pas donné à tous, tandis que la loi naturelle c'est donné à tous,
c'est donné pour tous, comme une exigence donnée pour tout le monde. Alors évidemment la loi naturelle aujourd'hui elle est complètement cachée.
Ce n'est pas dû aussi au fait que la causalité exemplaire est beaucoup plus facilement saisissable, donc il y a comme un moyen pédagogique, tandis que il est beaucoup plus difficile de saisir une éthique.
Beaucoup plus difficile, mais attention.
Les adresses sont beaucoup plus profondes.
Oui.
D'une certaine manière.
D'une certaine manière, parce que alors vous pourriez renverser l'argument en disant ça, en disant, vous voyez, donc la causalité exemplaire est donnée première, pédagogiquement.
Oui, pédagogiquement.
Est-ce que c'est donné?
Oui,
dans la mesure où la tradition religieuse précède et qu'il y donne des voies, c'est justement que c'est donné au point de vue pédagogique. Mais attention, dans la pédagogie de chacun, vous voyez, quand on doit éduquer des enfants,
parce que si on dit tu dois faire ça parce que la loi le demande, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que Freud dit, vous augmentez le surmoi.
Intérieur pour l'espèce, mais pas pour
l'espèce. C'est ça, exactement, exactement. Il faut au contraire essayer de faire comprendre de l'intérieur. Par là, tu vois, tu rejoins. Il faut redécouvrir, si on est un homme qui fonde un développement moral, on doit redécouvrir individuellement, par le point de vue de l'appétit naturel, toutes les exigences de la loi naturelle. Et la plupart du temps, les gens affirment la loi naturelle comme une chose plus vite.
La loi naturelle.
ne permettra pas de dépasser l'aspect collectif.
Il n'y aura pas de décision dans l'aspect individuel. La loi naturelle est faite pour chacun. Elle est faite pour chacun. Ce n'est pas une universelle logique. La loi naturelle est faite pour chacun. C'est une bonne personne. C'est
toi. Mais je veux dire, dans la mesure où on parle de justement de sagesse qui.
Elle a quelque chose d'universel, je suis tout à fait d'accord. Et donc, parce qu'elle a quelque chose d'universel, elle n'est pas immédiatement pour l'individu. Tandis que dans l'expérience que vous faites d'un amour et d'un ordre d'une fin, ça c'est purement individuel, ça je suis tout à fait d'accord. Mais dans la causalité exemplaire dépasse l'individu, mais elle regarde ce individu. Autrement, elle m'intéresse. Elle m'intéresse parce que je fais partie de cette nature humaine et la loi naturelle explicite l'ordre de la nature humaine vers sa fin. Donc l'individu est impliqué dedans, mais pas immédiatement. Ça, oui, d'accord.
C'est pour ça qu'elle demande d'être dépassée.
Oui, elle demande d'être dépassée, c'est-à-dire elle demande à être expliquée d'une manière pratique pour chacun. Comme toi-même. Et elle découvrir dans nous-mêmes. Découvrir dans nous-mêmes que cette loi naturelle n'est pas quelque chose d'appliqué à l'extérieur. Ce qui m'intéresse ici, je crois, là, ça demande une réflexion, mais c'est très important, parce que vous verrez que, moi je ne sais pas, ça m'a toujours beaucoup frappé, chez les bons catholiques de droite, c'est au nom de la loi naturelle que vous affirmez une morale. Je n'ai pas de livre là, vous m'en faites, mais je ne sais pas. Et c'est pas normal. On sent très bien que tous les gens, ça énerve toujours les gens. C'est qui ne comprennent pas ça et qui ne peuvent pas comprendre ça parce que c'est pas entièrement juste. La loi naturelle est normale quand je la mets en référence avec la sagesse divine. Alors là, oui, je fais appel à quelque chose qui est au-delà du moral, l'attitude religieuse. Et alors, au nom de cette attitude religieuse, j'accepte cette loi naturelle parce qu'elle est pour moi la voie de la sagesse de Dieu. Je crois, vous voyez, si on étudiait bien l'impératif catégorique de notre corps, on verrait bien que cet impératif catégorique est commandé par l'individu religieux, mais qui voudrait laisser, elle est obligée parfois. L'impératif catégorique n'a de sens qu'au niveau de la loi naturelle. Et une application de la loi naturelle, c'est pour ça que l'impératif catégorique consiste à dire tu dois te lever à 6 heures. La loi naturelle, ce serait de se lever au moment du soleil qui se lève, n'est-ce pas ? Alors ça serait la loi naturelle. Alors, le soleil se lève à 4h30, je pense. Ah, parce que je sais tout. Mettre à ce rythme cosmique et alors là serait naturel. Je ne dis pas que ce serait une loi naturelle, hein. Ce serait naturel, ce serait se mettre au rythme. Comme l'intelligence humaine est capable de dépasser le rythme de la nature, elle cherche autre chose. Y a-t-il encore des questions là-dessus ? Parce que ça, c'est important de souligner que la loi naturelle n'apparaît que dans une perspective d'éthique religieuse.
De Dieu quand je suis dans une perspective chrétienne, quand j'ai une perspective musulmane. Comme ça. Deux perspectives différentes. L'une et l'autre font appel à une foi. Le philosophe doit regarder, indépendamment de ça, qu'est-ce qu'il peut dire. Si je suis dans une perspective de métaphysique pure, hein, et que j'essaie de comprendre quel est le premier attribut de Dieu. Important, le premier attribut de Dieu. Je dirais que le premier attribut de Dieu, je crois en métaphysique pure, c'est la simplicité.
Alors, que si vous êtes dans une perspective de l'islam, vous direz que c'est la toute-puissance. Tout change dans le phénomène. Votre jugement à l'égard de l'homme se modifie en fonction de l'ordre que vous donnez aux différents attributs de Dieu, puisque tout le jugement de sagesse se fait dans la lumière de ces attributs divins. Vous dites la simplicité, la perfection et le produit de l'infini. Je crois que cet ordre-là est un ordre que vous pouvez découvrir dans une sagesse acquise humaine. Oui.
Est-ce que l'ordre entre les manières d'exister de Dieu ne va pas différer au niveau purement spéculatif au niveau de l'éthique religieuse ?
Non. Au niveau de l'éthique religieuse, c'est contemplatif. Ça n'est pas une contemplation que je découvre ça.
Mais est-ce qu'au niveau de l'éthique religieuse, quand même, ce qui va commander tout, ça ne va pas être la vanité ? Dans la mesure où justement c'est le rapport de la créature avec Dieu.
Ça dépend. Ça peut être la bonté, ça peut être la bonté que, en dernier lieu, quand vous arriverez à la bonté, vous direz que c'est ça qui noue tout. Mais est-ce que, dans un jugement de sagesse, est-ce que c'est la bonté qui est première ?
Une perfection. Donc ce qui va, d'une certaine manière, structurer l'attitude religieuse elle-même. Pas le, on peut quand même la distinguer du père contemplatif. Il y a un mode.
L'attitude religieuse est commandée par quoi ? Par le point de vue de la création. Or, au point de vue de la création, quel est le fondement de la création ? Est-ce que c'est la bonté de Dieu ou est-ce que c'est la communication de l'être que Dieu fait à chaque réalité ? Oui, oui, oui. Comme bon, d'une certaine manière. Mais si j'essaie d'établir une éthique religieuse, je ne regarde pas là le point de vue. Vous voyez ? De l'exercice, j'essaie de comprendre, dans un jugement de sagesse, quelle est la vision que j'ai sur l'homme à partir de ma contemplation sur Dieu. Or, je crois que dans la contemplation sur Dieu, qu'est-ce qui est premier ? C'est de voir Dieu dans sa transcendance absolument simple. Je crois que ça reste le premier. Mais je vois très bien, alors là, je suis d'accord tout à fait, que la relation va s'établir avec Dieu de façon tout à fait privilégiée dans sa bonté. Oui, plus personnel. Et donc, c'est d'une certaine manière là où tout prendra son acuité profonde. Mais, comme jugement de sagesse, vous voyez, autre chose est d'établir les liens que j'ai avec Dieu et le point de vue de ce jugement de sagesse. On est quand même dans un point de vue de jugement de sagesse, on est dans une perspective philosophique, vous voyez, pas immédiatement pratique. Je crois que, vous voyez, il y a quand même toujours, hein, ce que je voulais dire, que dans une perspective de théologie, de jugement de sagesse, ça implique une certaine contemplation de Dieu. Donc, d'une certaine manière, je suis au-delà des traditions. Dans les traditions, il y a toujours un certain poids affectif qui demeure, qui font sont jamais très purs. Vous voyez ? Donc, je crois que le philosophe peut purifier les traditions religieuses. Du moins, moi, personnellement, je le crois. Je sais bien que c'était un point de litige à Fribourg avec le père Nicolas qui prétendait qu'on ne pouvait pas dire que la philosophie purifiait les traditions religieuses. Alors que je crois, je dis ça, c'est parce que c'est pour montrer que d'autres soutiennent que les traditions sont premières. Je ne crois pas. Je crois qu'elles sont premières dans l'ordre génétique, dans l'ordre de l'imperfection vers le parfait, tout à fait d'accord. Donc les traditions religieuses me portent, et portent la philosophie. Mais une fois que la philosophie existe, la philosophie, elle, peut critiquer les traditions religieuses, parce que les traditions religieuses relèvent de l'homme. Mais le philosophe ne peut pas critiquer la foi et une tradition qui relève sur la foi et qui dépend de la foi. Mais je peux critiquer les traditions religieuses. Il faut donc distinguer là quelque chose de très important. Les traditions religieuses, le domaine de la foi et le domaine du jugement de sagesse au point de vue philosophique. Trois choses qu'il faut distinguer. Alors, je peux à partir de là distinguer qu'est-ce qui est premier dans ces trois ordres. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre des traditions religieuses? Alors, est-ce que là, nous ne verrions pas une très grande diversité selon les diverses traditions religieuses? Qu'est-ce qui est premier dans la tradition judéo-chrétienne? Qu'est-ce qui est premier dans la tradition islam? Qu'est-ce qui serait premier dans une tradition chrétienne? Qu'est-ce qui demeure premier dans un regard proprement de sagesse philosophique? Oui. Je crois que nous pouvons discerner ces aspects différents. Qu'est-ce qui est premier dans un regard de foi chrétienne? Et c'est ça qui est intéressant, de voir qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui commande les autres? Il y a un ordre. Dans toute tradition religieuse, il y a un ordre. Alors, essayons de mettre uniquement, simplement, à titre de recherche. Qu'est-ce qui est premier dans la tradition judéo-chrétienne? Un seul Dieu, tu adoreras. Je crois. Tradition religieuse, l'adoration. Et considérer que l'adoration provient d'un Dieu sage, d'un Dieu bon, d'un Dieu tout-puissant. Et je ne mettrai pas la toute-puissance en premier lieu, dans la tradition judéo-chrétienne. Je mettrai la sagesse, la bonté, alors je peux discuter, est-ce que c'est la bonté ou la sagesse, je mettrai plutôt la sagesse avant. La sagesse, donc la lumière, la bonté et la toute-puissance. Et la toute-puissance vient en troisième lieu. Je sais qu'on peut dire, le père Barthélemy soulignait en théologie biblique, donc bon, au point de vue tradition, il mettait assez facilement le point de vue de la seigneurie de Dieu et donc de la toute-puissance. Je ne crois pas. Je crois que ce qui est premier, c'est beaucoup plus le point de vue de la sagesse. Et commandé, donc par le fait même qu'il commande une attitude religieuse. Dans l'islam, je dirais, ça c'est la toute-puissance. Ça c'est très net. Ils sont tous d'accord. C'est la toute-puissance. C'est le Dieu créateur, il est tout-puissant. Et vous n'avez qu'une seule attitude, c'est de vous mettre sous sa domination. C'est tout. Puis on se tait. Et ça conduit à une attitude fataliste, vous voyez. Ah, Dieu l'a dit, Dieu le veut, très bien. Mais on ne développe pas le point de vue d'une recherche intellectuelle pour essayer de comprendre. C'est même dangereux. Alors, malgré ça, et c'est ça qui est très très curieux, malgré cette attitude-là, il s'est développé toute une philosophie. Pourquoi ? Je dirais, mon point de vue, tout simplement, au point de vue sagesse philosophique, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait juste, et donc la nature humaine a rectifié, philosophiquement. Parce que c'est pas entièrement juste de dire que c'est la toute-puissance qui est première. C'est Dieu n'est pas premièrement le potentat. Non, c'est pas la nature de Dieu. Et la nature de Dieu ne peut pas faire Dieu un potentat au premier lieu. Dans l'attitude chrétienne, qu'est-ce qui est premier? Selon les traditions, je crois, c'est l'amour. La tradition chrétienne implique ce point de vue de l'amour. Alors, en face de Dieu, j'aurai donc une attitude d'amour en premier lieu. Il me semble que les traditions chrétiennes impliquent ça. Alors, ça rejoint un peu la foi. Dans la foi, qu'est-ce qui serait premier? c'est évidemment le point de vue de l'amour et de la fécondité de Dieu dans la très sainte Trinité. Oui. Donc je suis en phase de divers premiers. Et au point de vue philosophique, je dois pouvoir essayer de discerner quel est le premier attribut de Dieu que je peux affirmer comme le premier attribut de Dieu. Je crois que c'est la simplicité. Je crois bien. Au plan philosophique, hein, c'est la simplicité. Et je crois que là, quand saint Thomas, il ne le fait pas du tout dans cette perspective-là, hein, pas du tout. Mais c'est intéressant de voir que on touche là quelque chose qui me semble être vraiment ce qu'il y a de premier au point de vue philosophique. Premier au point de vue philosophique, contempler Dieu, c'est-à-dire essayer de découvrir la transcendance de Dieu. Or, la première manière pour moi de découvrir la transcendance de Dieu, c'est de voir qu'il n'implique pas de composition. Alors que toutes les autres réalités impliquent une composition.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Alors le cours sera ce qui tombe, le second. Le troisième, c'était quelle heure? 5h15. 5h15.